VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 24 août 2015, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Mali, la CMA suspend sa participation au comité de suivi de l'accord de paix.
Visite de deux jours du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au Nigeria, Boko Haram, au centre de ses entretiens avec le président Buhari.
En Tunisie, un agent de la garde douanière tué par des djihadistes près de la frontière algérienne.
François Hollande décerne ce matin la Légion d'honneur aux trois jeunes Américains et aux Britanniques qui ont maîtrisé le terroriste présumé à bord du Thalys Amsterdam-Paris.
Et poursuite des pourparlers d'urgence entre les deux Corées pour éviter la guerre dans la péninsule.
Quelques-uns des titres que nous allons développer et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, suspend sa participation au comité de suivi de l'accord de paix, alors que la reprise des travaux de ce comité est prévue ce lundi à Bamako. Cette suspension fait suite au récent combat dans la région de Kidal, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, selon ses responsables qui sont à Bamako, participera ce lundi matin à la reprise des travaux du comité de suivi. Ça sera pour dire tout simplement que la CMA suspend sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord. Les rebelles demandent que les éléments de la plateforme qui sont actuellement à Anéfis de quitter cette localité, sans quoi ils ne participeront pas aux travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix. Ce refus des rebelles est la conséquence des combats qui se sont déroulés dans la région de Kidal. C'est pourquoi la nuit et la journée de dimanche ont été très longues à Bamako. Il y a eu beaucoup de réunions entre les responsables militaires et de sécurité afin de trouver des arrangements. Des réunions qui ont continué très tard dans la nuit. Il reste à savoir ce qu'ils vont dire ce matin à l'ouverture des travaux de ce comité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a entamé hier au Nigeria une visite de deux jours pour des entretiens sur le terrorisme et autres questions vitales avec le président Muhammadu Buhari. Quelques heures auparavant, l'armée nigériane avait annoncé que son chef, le général Tukur Buratai, a échappé samedi à une embuscade tendue à son convoi par des éléments présumés de Boko Haram dans l'état de Borno. Selon le porte-parole Sani Ousmane, les terroristes se sont heurtés à une écrasante puissance de feu de l'armée qui a tué 10 d'entre eux et en a capturé 5 autres. Un soldat gouvernemental a été tué et 5 blessés.
En Tunisie, un agent de la garde douanière a été tué dimanche par des djihadistes armés à Bouchebka, près de la frontière avec l'Algérie, ont annoncé la télévision d'État et le président d'un syndicat douanier. La chaîne Ouattaniya a parlé de 3 autres blessés dans cet échange de tirs avec les terroristes. La Tunisie fait face depuis sa révolution en 2011 à une progression de la mouvance djihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers et de 59 touristes au total.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président de la République, François Hollande, va décerner ce matin la Légion d'honneur aux 3 jeunes Américains et aux Britanniques qui ont maîtrisé l'homme qui essayait d'ouvrir le feu à bord du train Thalys Amsterdam-Paris. L'enquête est toujours en cours pour tenter de déterminer les motivations du tireur. Des détails avec Henri Francisque.
L'enquête est difficile. Selon une source proche de l'enquête interrogée par l'AFP, Ayoub El-Kazani joue les têtes de mule. Derrière l'image du tireur gringalet, semble se dessiner un profil de marginal, petit délinquant à 16 heures, attiré par les sirènes de l'islam radical. Le Marocain a nié tout projet terroriste, expliquant avoir trouvé sa Kalachnikov dans une valise, dans un jardin public près de la gare de Bruxelles, où il dort avec d'autres SDF. Selon lui, il voulait détrousser les passagers du train façon attaque de diligence pour pouvoir se nourrir. Une version qui ne convainc ni les enquêteurs ni les jeunes Américains qui l'ont maîtrisé dans le train. Pour braquer des gens, on n'a pas besoin de 8 chargeurs, a commenté dimanche l'un d'entre eux, Anthony Sadler, lors d'une conférence de presse. Si Ayoub El-Kazani savait mal manier les armes, il était néanmoins fiché par les services de renseignement français et se serait rendu en Turquie et probablement en Syrie en mai dernier. Son parcours rappelle à certains égards celui de Mehdi Nemouche et Mohamed Mera, des petits délinquants qui se sont radicalisés avant de commettre une tuerie.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme et le responsable syrien des services des antiquités ont annoncé la destruction par le groupe État islamique d'un temple ancien à Palmyre, ville inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Il s'agit de celui de Baal Shamin, un temple datant de 2000 ans. Les djihadistes considèrent les statues humaines ou animales comme de l'idolâtrie et ont déjà détruit plusieurs trésors archéologiques en Irak. Par mardi, ils ont décapité Khaled al-Assad, 82 ans. Il dirigeait depuis 50 ans le service des antiquités de Palmyre.
La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a déclaré lundi que Séoul n'éteindrait pas ses haut-parleurs qui diffusent de la propagande à la frontière avec la Corée du Nord tant que celle-ci ne présenterait pas des excuses claires. Pyongyang doit également promettre de ne pas se livrer à de nouvelles provocations, a déclaré la présidente lors d'une réunion avec ses conseillers, alors que les deux États rivaux sont engagés dans des négociations marathon pour tenter d'éviter la guerre dans la péninsule.
Ces pourparlers qui ont commencé samedi sont poursuivis aujourd'hui à Panmunjom. Entre-temps, la Corée du Sud a signalé des mouvements inhabituels de troupes et de sous-marins dans le nord. Selon un de ses porte-paroles, Pyongyang a déplacé de leur base 70% de ses sous-marins. On n'est plus en mesure de les détecter. Il semble, a-t-il ajouté, que le nord poursuit d'un côté le dialogue tout en se préparant pour la bataille de l'autre.
La pression migratoire est de plus en plus forte en Europe. Des milliers de migrants, notamment des réfugiés syriens, ont traversé ce week-end la Macédoine et la Serbie en direction de l'Europe occidentale, tandis que près de 5000 migrants ont été secourus en Méditerranée. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Plus de 7000 personnes sont parvenues hier dans le sud de la Serbie, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui souligne également avoir obtenu l'engagement du gouvernement macédonien que la frontière sera ouverte aux réfugiés fuyant la guerre dans leur pays. La Serbie est la dernière étape avant la Hongrie, pays membre de l'Union européenne. Sur une des autres voies qu'empruntent les migrants pour venir en Europe, quelques 4400 personnes ont été secourues samedi et 300 supplémentaires dimanche en mer Méditerranée, dans des opérations coordonnées par des gardes-côtes italiens. Le chef de la diplomatie italienne, Paolo Gentiloni, a déclaré que face à cette crise, l'Europe risquait de montrer le pire d'elle-même en matière d'immigration. Il a déploré l'égoïsme, les prises de décisions hasardeuses et les disputes entre les États membres. En Allemagne, c'est le vice-chancelier Sigmar Gabriel qui est monté au créneau. Pour lui, la gestion de 800 000 réfugiés pour l'année 2015, un chiffre record, est non seulement un devoir collectif, mais aussi le plus grand défi de l'Allemagne depuis la réunification.
Au Liban, la crise des déchets s'est aggravée ce week-end à Beyrouth, la capitale. De violents accrochages ont éclaté entre policiers et manifestants. Une crise qui accentue la pression sur un gouvernement déjà paralysé par de profondes divisions. Anastasie Toudièche.
La crise des ordures est la goutte d'eau qui a fait déborder la colère de l'opinion, a reconnu le Premier ministre Tamam Salam. Après un rassemblement pacifique qui a dégénéré samedi, le Premier ministre a appelé au calme et tendu la main aux protestataires. Les manifestations ont eu lieu à l'appel du mouvement citoyen « Vous puez », créé cet été pour protester contre l'incapacité du gouvernement à trouver une issue à la crise des ordures ménagères qui envahissent les rues depuis des semaines. Mais la colère des manifestants est aussi politique. Certains détritus ne devraient pas être recyclés, pouvait-on lire sur des pancartes, où figurent plusieurs personnalités comme l'ex-premier ministre Saad Hariri ou le druze Walid Jumblatt. Pour Joey Ayoub, un porte-parole des manifestants interviewé par l'AFP, les raisons ne manquent pas pour se soulever contre la classe politique. Au problème endémique des ordures s'ajoutent les coupures de courant de plus en plus nombreuses ou l'impact de la présence de plus d'un million de réfugiés syriens sur le territoire.
Et maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
La construction du tronçon ferroviaire Niamey-Cotonou va pouvoir commencer. Le Bénin, le Niger et le groupe français Bolloré ont signé une convention permettant le début des travaux de cette ligne de 1050 km pour un montant de 655 milliards de francs CFA. Une partie du montant de cette somme sera consacrée aux travaux de rénovation de lignes déjà existantes depuis l'époque coloniale. Bolloré a entamé depuis avril 2014 les poses des rails entre Niamey, la capitale nigérienne, et la région de Dosso, proche du Bénin. Une saison record pour la production du cacao en Côte d'Ivoire. Selon une note d'analyse d'Ecobank Capital, les volumes de cacao livrés aux ports ivoiriens sont en hausse pour l'année 2014-2015, dépassant la production déjà record de l'année précédente. Toujours selon Ecobank, le conseil du café cacao ivoirien pourrait augmenter le prix payé aux agriculteurs, sachant que les prix internationaux du cacao ont augmenté de 10,3% cette année. Le Cameroun va organiser son premier forum des investisseurs en novembre prochain. Selon l'agence APA, c'est l'organisme public API, l'agence de promotion des investissements, qui va gérer l'événement pour attirer les opérateurs économiques internationaux au Cameroun.
À présent, les sports avec Élisée Ounkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Cinquième journée des Coupes d'Afrique des clubs et ça se décante dans la phase de groupe, surtout en Ligue des Champions.
Effectivement, puisque dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe s'est compliqué la tâche. Les Corbeaux, battus en déplacement 1-0 sur la pelouse des Soudanais d'Al Hilal, ratent ainsi l'occasion de garder seule la tête de ce groupe et qui surtout devront se batailler lors de la dernière journée face aux Marocains de Mogret Tétouan qui se sont imposés 2-1 face aux Égyptiens de Smoura déjà éliminés. Mazembe, Al Hilal et Tétouan comptent chacun 8 points avant la 6e et dernière journée.
Et puis vendredi, on sait que le tenant du titre ne défendra pas sa couronne en demi-finale.
On le sentait depuis le début de cette phase de poule et le coup près est finalement tombé sec avec une défaite 3-0 sur la pelouse de l'USM Alger. Pour le troisième club algérien MC El Ulma, le suspense était moindre, l'élimination étant déjà consommée depuis plusieurs journées. L'équipe de l'Est de Sétif s'est inclinée 3-2 sur sa pelouse face aux Soudanais d'El Meriek. Les Soudanais qualifiés tout comme l'USMA invaincus dans le groupe avec 5 victoires en 5 matchs.
En Coupe de la Confédération, on connaît les équipes qualifiées pour les demi-finales.
Oui, Idrissa, la dernière équipe qui pouvait entretenir le suspense dans le groupe A, eh bien, c'était le Stade Malien, avec 5 points de retard sur leurs adversaires du jour, l'Étoile du Sahel. Une victoire des Blancs était nécessaire pour relancer un peu l'intérêt de la 6e journée. Mais les hommes de Kamel Djabou ont concédé le nul un partout sur leur pelouse. Avec 5 points, le Stade Malien laisse échapper pour de bon l'Étoile du Sahel, 10 points, à égalité avec le National du Caire, vainqueur de l'Espérance de Tunis 1-0. Et puis, dans le groupe B, même le dernier match de cette 5e journée ne présentait pas d'enjeu, si ce n'est la première place du groupe pour le Zamalek du Caire. Notons que les Égyptiens lancés dans une lutte à distance avec les Sud-Africains d'Orlando Pirates et qui s'offrent le droit de disputer en position de force la vraie finale du groupe dans 3 semaines au Caire ont répondu en infligeant une défaite de 3-1 tunisien du club sportif sfaxien déjà éliminé. Samedi, Orlando Pirates s'est qualifié en battant les Léopards de Dolisie 2-0.
L'afro-basket qui se poursuit à Tunis avec les derniers matchs de poule ce lundi.
Dans le groupe B, le Sénégal et l'Angola vont s'affronter pour une vraie finale en vue de la première place. L'autre match mettra aux prises le Maroc au Mozambique. Toujours ce lundi, cette fois dans le groupe D, la Côte d'Ivoire disputera la 2e place à l'Algérie et le Cap-Vert qui a enregistré jusque-là un sans faute tentera de signer son 3e succès, cette fois face au Zimbabwe. Et puis hier, le groupe A nous a livré un match choc entre la Tunisie et le Nigeria. Le pays hôte s'est imposé 79-59 et prend du coup la tête du groupe devant justement le Nigeria et la République centrafricaine qui est 3e. Dans la poule C, le Cameroun a signé sa 3e victoire, cette fois face au Gabon, 93-67. L'Égypte s'attribue la première place en dominant le Mali 55-49. Un mot par rapport à l'athlétisme, les championnats du monde à Pékin pour dire que Usain Bolt reste l'homme le plus rapide du monde. Le Jamaïcain a remporté la course reine du 100 mètres devant l'Américain Justin Gatlin en 9-79.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le sous-emploi favorise l'émergence d'une gamme variée d'activités informelles, comme par exemple le transport interurbain par moto-taxi. Même les jeunes étudiants, sortis frais et moulus des universités, se lancent dans ce genre d'activité. Reportage de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
C'est dans cette ambiance surchauffée que Rostang Efoudou embarque un passager à bord de sa moto à Yaoundé. Cet étudiant de l'université de Yaoundé 2 n'a pas trouvé meilleure activité malgré son master en droit privé. Un contraste accepté à contre-cœur.
C'était difficile pour moi d'abord d'accepter cet emploi au vu de mon bagage. Lorsqu'on suit que vous avez un master et autres, on va dire comment vous êtes descendu aussi bas. Mais ce qui m'a vraiment motivé, c'était la question de l'emploi stable. Mais aussi pour subvenir à ma micro-famille, une copine avec qui nous avons eu un enfant qui a déjà l'âge de 5 ans.
Rostand se bat ainsi pour se donner les moyens de financer des concours qui lui permettraient d'accéder à la fonction publique camerounaise. Notre débrouillard conduit sa moto sans répit de lundi à dimanche, avec pour obligation de reverser au propriétaire 4000 francs CFA, soit 8 dollars par jour.
Bon, mon revenu, après avoir cotisé les 4000 francs du propriétaire, je me bats comme je peux. Je peux aller à 2000 francs, voire à 3000 francs la journée. On n'a pas vraiment le temps pour se reposer. De lundi à samedi, c'est un peu comme si vous travaillez pour le patron. Alors, la journée qui est censée être de repos, le dimanche, vous devez travailler pour vous-même. Alors, le corps est énormément utilisé.
Roland compte parmi les 2 millions de mototaximens camerounais qui doivent braver les difficultés de divers ordres.
La moto a des pannes et autres et parfois le propriétaire ne gère pas cela. Il aimerait voir rien que ces 4000 francs. Maintenant, il y a aussi la question de l'insécurité. Lorsqu'on nous tendons vers 20 heures avec les agressions. Deuxièmement, sur la route, les policiers et gendarmes. Quand bien même vous êtes en règle, il y a toujours un petit motif. Toujours est-il que nous faisons l'objet un peu de quelques anacs. Les intempéries, le soleil, la canicule, le moment de la saison pluvieuse sont très difficiles. Les routes ne sont pas vraiment praticables.
L'importance des mototaxis n'est plus à démontrer au Cameroun. Ils desservent les milieux périurbains, réputés pour l'état enclavé de ces routes. Certaines personnes saluent ces modes de transport qui doit davantage se structurer, comme explique Sylvain Ekwala, habitant de Yaoundé.
Là où les voitures ne peuvent pas arriver, parce qu'il y a des zones très enclavées au Cameroun, les motos arrivent à ces milieux-là et à des prix convenables. Ça fait donc c'est un bon métier, mais il faut seulement réglementer, sensibiliser les mototaximans. Au niveau de leurs responsabilités, j'ai vu un documentaire où on disait qu'il y a un mototaximan qui a conduit un gars du Nord qui avait les bombes. Il a conduit directement dans un poste de police, ce qui est également à apprécier.
Selon le ministère camerounais des Transports, 41% des morts par accident de la circulation sont des usagers de mototaxi. Balbin Tsama, résident de Yaoundé, en sait quelque chose.
Il y a certains gens qui ne partent pas apprendre comment on conduit. Ils apprennent à conduire sur le terrain et c'est là où c'est dangereux. Parce que ma mère, dernièrement, la moto l'avait cognée. Il y a aussi ma tante, dernièrement, qui était sur la moto. Je ne sais pas comment ils sont rapides comme quoi là. Il est parti aider une autre voiture.
Cette activité de mototaxi prend de l'ampleur au Cameroun à cause du taux de chômage estimé à 40%, avec 80% de sous-emploi selon l'Institut camerounais des statistiques. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Au Bénin, à l'instar de plusieurs universités de la sous-région ouest-africaine, l'Université nationale du Bénin fait face à de nombreuses difficultés, dont le manque d'infrastructures, de livres et de manuels didactiques. C'est une situation qui ne facilite pas la vie aux étudiants, nous dit de Cotonou notre correspondante Ginette Fleur-Adande.
Les conditions de vie sur le campus sont tellement pénibles.
C'est une partie du calvaire que traversent les étudiants de l'Université nationale du Bénin, la principale université du pays. Réussir à s'y inscrire est un parcours de combattant et s'asseoir pour suivre les cours reste une épreuve de force. Pour ceux dont les parents sont nantis et qui peuvent s'inscrire dans les universités privées, le problème ne se pose pas. Mais pour les enfants de parents pauvres, le calvaire reste permanent.
Nos conditions de travail sont vraiment déplorables parce qu'on est au nombre de à peu près 1500 pour 800 ou 600 places. Donc on reste au niveau des fenêtres au dehors pour essayer de prendre notre...
Moi, quand je suis le campus, on vit une vie très pénible. Et puis il y a la chaleur, les brasseurs qui sont placés ne travaillent même pas.
Malgré la construction d'amphithéâtres pour alléger un tant soit peu la tâche aux étudiants, l'un des responsables de la Fédération nationale des étudiants du Bénin se désole des conditions difficiles dans lesquelles ils sont obligés d'étudier pour à la fin devenir de potentiels chômeurs, le marché de l'emploi étant très saturé.
Nous avons des problèmes liés aux bibliothèques. Notre bibliothèque centrale qui est là est dépourvue des documents nécessaires à l'apprentissage. Pour le secteur qui concerne la restauration, sur insistance, le budget du cours cette année a été beaucoup plus concentré dans ce secteur. Pour ce qui est de l'hébergement, c'est encore là un gros problème, un gros souci. Non seulement les bâtiments n'ont pas été professionnés comme cela se devrait, mais également des bâtiments ont été fermés.
Au niveau de l'administration universitaire, on reconnaît l'urgence de l'heure, mais en attendant, quelques solutions ont été trouvées. Le vice-recteur en parle.
Le rectorat a créé un service de mutualisation parce que nous sommes partis du constat que si on gère mieux ces infrastructures, on peut alléger un peu les souffrances des étudiants. Donc ce service a été créé qui permet une utilisation maximale des infrastructures existantes. Donc c'est fini l'époque où, alors que des étudiants de telle entité n'ont pas de salle où faire cours, il y a des salles d'autres entités qui sont inutilisées. Donc on a fini avec ces difficultés. Il y a aussi la décision d'étendre les cours du lundi au samedi. Il y a même des enseignants qui viennent faire des cours les dimanches pour dire que chacun y met un peu du sien pour relever ces défis.
Trouver une porte de sortie paraît donc nécessaire, mais pour le moment, les étudiants sont obligés de faire avec en attendant que les partenaires techniques et financiers ne viennent en aide de l'État à travers la construction de nouvelles salles pour qu'étudier à l'université ne soit plus un casse-tête permanent. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le 14e Forum international de l'AGOA débute ce lundi à Libreville au Gabon. L'AGOA est une loi américaine votée en 2000 par le Congrès américain sous l'égide du président Bill Clinton. Elle a été renouvelée en juillet pour 10 ans. Ce dispositif législatif permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter plusieurs milliers de produits aux États-Unis sans frais de douane. Nicolas Pineau a joint l'ambassadrice américaine au Gabon, Cynthia Akwete.
C'est une réunion qui est très, très importante. Il y aura des délégations des États-Unis et aussi environ 35 pays en Afrique. Le but de cette réunion est de discuter l'AGOA et particulièrement comment est-ce qu'on peut profiter de l'AGOA pendant les 10 ans en venant. L'AGOA, c'est une loi qui donne les préférences aux pays en Afrique pour accéder le marché aux États-Unis. La loi, c'est la première fois en 2000 et maintenant on a renouvelé la loi en 2015 encore pour 10 ans. Et ça donne beaucoup de confiance pour les investisseurs qui veulent investir en Afrique. Parce qu'on sait, le moyen mécanisme pour encourager le développement, pour encourager la croissance, c'est avec commerce. Et c'est très important que l'Afrique maintenant est intégrée dans le monde du commerce.
L'argument du commerce pour le développement, c'est l'une des bases de la diplomatie américaine, justement, envers le continent africain.
Oui, c'est très important parce que, par exemple, AGOA, c'est clé pour nous, notre engagement économique.
Quel type de produits bénéficient de l'AGOA au Gabon?
Le pétrole. Mais le Gabon, c'est un pays avec beaucoup, beaucoup de potentiel et le gouvernement est en train de diversifier leur économie. Il y a beaucoup de potentiel dans l'autre secteur, par exemple dans le bois, par exemple dans la bijouterie et le produit de beauté, et aussi alimentaire.
Et quel est l'intérêt finalement pour Washington d'offrir cette facilité au continent africain?
Pour encourager le développement, pour encourager c'est aussi le moyen classe, c'est aussi d'améliorer un taux de vie. Avec le rôle de le secteur privé, on peut travailler, on peut créer les emplois. C'est mieux pour le développement. C'est très, très important parce que nous pensons avec le respect des droits de l'homme, c'est aussi une augmentation de la bonne gouvernance. C'est la question de transparence, c'est la question aussi d'avoir un climat pour attirer les investisseurs. Et aussi un respect pour le rôle de les femmes. Et aussi, c'est très important que le gouvernement ait un processus de développer les politiques pour baisser la pauvreté.
L'ambassadrice américaine au Gabon, Cynthia Akwete.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Fin hier au Togo du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, cette édition du CIALO, la quatrième du genre, a surtout débattu de la thématique des emballages pour les produits agroalimentaires. De Lomé, reportage de notre correspondante Kay Lawson.
La quatrième édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Cialo, qui s'est déroulée du 19 au 23 août 2015, a permis aux acteurs du monde agroalimentaire d'échanger autour du thème du packaging et de l'emballage. Daniel Atikpo, coordinateur du Cialo.
Au cours des éditions précédentes, nous avons remarqué que la plupart des acteurs, surtout ceux qui sont dans la transformation, se plaignaient qu'ils n'avaient pas les solutions en termes d'emballage. Donc il était important que nous puissions mettre à leur disposition les spécialistes et les professionnels qui interviennent dans le domaine de l'emballage. Quand on parle d'emballage, il faut juste comprendre que c'est un contenant qui permet de donner des conditions de sécurité pour la conservation, le stockage et le transport. Mais quand vous considérez la plupart des emballages que nous avons ici, ça ne permet pas à certains produits d'être durables.
À la seconde journée de ce salon, l'ingénieur des industries agroalimentaires, le Burkinabé Vincent Nana, a édifié les exposants sur la nécessité d'avoir recours à l'emballage.
Les emballages occupent une place importante dans l'agroalimentaire parce que l'emballage sert d'abord à protéger le produit, il sert à vendre le produit, il sert à transporter le produit. Le conditionnement va permettre de donner de la vie au produit pour être utilisé en intersaison et contribuer d'une manière ou d'une autre à l'atteinte de la sécurité alimentaire.
Face à l'indispensabilité des emballages et sous la contrainte financière, la société de production de farine de maïs Timagro opte pour des emballages translucides. Ismaël Tanko, directeur général de Timagro.
C'est extrêmement compliqué d'avoir des emballages qui peuvent concurrencer les produits qui viennent de l'étranger à coût réduit. Pour le moment, nous faisons avec les moyens de bord, nous achetons des emballages translucides et nous commandons des étiquettes, donc ce qui fait que nous doublons l'emballage en réalité. Donc un premier emballage dans lequel nous mettons la farine et nous mettons ensuite l'étiquette et nous réemballons. Et ce qui fait que ça augmente notre coût de production parce que nous emballons de manière double en plus de produits des étiquettes.
L'entreprise Ecospiruline, elle met ses produits dans des boîtes qu'elle dit avoir choisies pour attirer de la clientèle. Comme Dimedo, agent commercial à Ecospiruline.
Nous commandons des boîtes dans ces boîtes. Nous mettons la spiruline en poudre de 50 grammes. À première vue, c'est l'emballage que les clients voient. L'esthétique de l'emballage attire premièrement d'abord. Donc on a essayé de proposer un emballage qui va attirer le maximum de clients.
Plus qu'une stratégie de marketing, la plantation Yentumi, productrice de café des grands plateaux, se retrouve dans l'obligation de mettre son produit dans des emballages. Kofi Tché Wolanyo Sidja, l'un des responsables de l'unité de production.
Le café ne peut pas être un produit en vrac, un café torréfié en vrac. Va perdre son arôme, dont le café torréfié moulu doit être toujours en emballage pour conserver son arôme. Comme on n'utilise pas des conservants, on doit utiliser l'emballage pour pouvoir protéger le café de la contamination extérieure. Comme c'est une production en quantité, donc on commande beaucoup l'emballage, donc ça nous revient moins cher. Ça n'a pas trop d'influence sur le prix unitaire.
L'édition 2015 du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé a posé les bases pour dynamiser la filière Anacarz au Togo en s'inspirant de l'expérience béninoise. Une journée a été consacrée aux noix de cajou au cours de ce salon. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Arnold Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Ogoué au cœur de l'info sur VOA Afrique.